Le temps des écrivains avec l'appli Audible. Écoutez des livres audio sur votre smartphone. Des coachings ou podcasts, rendez-vous sur audible.fr.
Le temps des écrivains. Une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Une émission que nous avons la chance de faire aujourd'hui et vous en entendez l'écho fiévreux, passionné, en direct du salon Livre Paris, le salon du livre de Paris. Il se déroule porte de Versailles jusqu'à lundi dans une belle énergie qui nous prouve qu'on est encore dans un pays qui aime les livres et ses écrivains. Et bien justement, le temps des écrivains, c'est l'émission des écrivains. Chaque semaine, l'un d'eux ou deux d'entre eux nous rejoignent le samedi à 17h pour venir parler de leur dernier livre, certes, mais surtout de leur travail. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous passerons cette heure avec une femme d'exception, une femme russe, écrivain, l'écrivain russe vivant le plus lu à l'étranger, ancienne généticienne devenue merveilleuse romancière, dont les fresques embrassent l'histoire russe du XXe siècle. Une femme en butte avec le pouvoir aussi, qui a été en 2012 l'une des coordinatrices des protestations contre Poutine, qui a dénoncé l'annexion de la Crimée, qui a été accusée de propagande homosexuelle, agressée publiquement aussi alors qu'elle participait à un concours scolaire de nouvelles sur la Russie au XXe siècle, mais qui reste une humaniste, une femme attentive, vivante, bref, une héroïne de notre temps, et qui se tient là à 75 ans avec une dignité qui l'honore, une prise de parole libre, de la mémoire aussi, et en plus, elle est capable de bâtir des personnages de femmes sans pareil. On est très heureux d'accueillir Ludmila Evgenievna Ulitskaya. Bonjour Ludmila.
Merci, moi.
Merci beaucoup, je suis ravie de vous voir tous.
Alors d'abord, comment ça va Ludmila Ulitskaya?
Отлично.
Tout va bien.
J'ai
travaillé beaucoup d'années sur moi-même pour cheminant vers la fin de ma vie, me sentir bien.
Bon, très bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un salon du livre comme celui-ci aujourd'hui, des gens dans les allées cherchant un livre, cherchant un écrivain qu'ils aiment? Vous, peut-être?
C'est une grande épreuve. Chaque fois où je suis invitée au salon du livre et particulièrement à Francfort, c'est une grande épreuve pour moi, mais aussi une grande joie.
Est-ce que Paris vous semble encore une ville qui incarne, vu de la Russie, qui incarne un pays qui aurait toujours un lien privilégié avec la littérature?
Oui, certainement, sans aucun doute. Beaucoup de choses changent dans notre vie, mais je pense que Paris n'a changé et c'est toujours la capitale culturelle du monde.
Alors c'est en France que votre premier livre, Les pauvres parents, a été imprimé. C'est en France que votre roman le plus célèbre, Sonetchka, a d'abord été publié. Alors en Russie, il avait été publié, mais dans la revue littéraire Novi Mir, d'ailleurs, fidèle à sa tradition de publication d'auteurs en délicatesse avec le pouvoir. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce lien entre les Français et ce que vous écrivez?
Vous savez, je pense que c'est le destin. Et on ne peut jamais expliquer le destin. Le destin vient et on l'accepte. Et vraiment, pour moi, c'est le début, c'est mes débuts littéraires qui sont liés avec la France.
Vous ne figuriez pas, Ludmila Ulitskaya, au début sur la liste des écrivains russes invités à Livre Paris. Pourquoi, alors que vous êtes la Russe la plus lue à l'étranger? C'est quand même étrange.
Vous savez, parce que déjà c'est à l'étranger. Et peut-être même, je ne suis pas sûre que je suis la plus lue, parce que les sondages peuvent être différents. Et comme un des arguments qui était invoqué, pourquoi je n'étais pas inclus, on m'a dit qu'il y a des jeunes auteurs et il faut laisser la place aux jeunes, ce qui se tient comme argument. Et peut-être qu'il y a eu d'autres considérations, mais ça ne m'intéresse guère.
Depuis, ça a été rectifié. Vous êtes maintenant officiellement sur la liste. Alors, je ne sais pas si c'est bien d'être sur une liste hein, quand on est écrivain. Mais est-ce que ça vous a touché, finalement, d'être finalement, remise sur la liste, à la toute fin?
Vous savez,
quand je viens ici au salon, je viens pour voir mes lecteurs et non pas les organisateurs et tous ceux qui gravitent autour du salon et qui surtout ceux qui jouent aux jeux politiques. Donc, pour moi, c'est un grand privilège de rencontrer avec mes lecteurs français. Demain, je serai au stand de l'édition Gallimard. Je serai également sur le stand Russie. Et je suis ravie qu'il y a de plus en plus de lecteurs français qui s'intéressent à des textes écrits en russe ou sur la Russie.
Donc finalement, la liste, on s'en fiche. Un petit mot quand même avant de parler de l'échelle de Jacob, votre nouveau livre, sur les élections qui se joueront demain. Est-ce que pour vous aussi, ces élections sont jouées depuis longtemps ?
C'est sans aucun doute que tout est joué d'avance, même s'il y a des intrigues. Moi, j'ai été récemment en Italie, et vous savez comment l'Italie a été secouée par l'intrigue électorale, et personne ne s'attendait à un résultat pareil. Le mouvement des 5 étoiles, le mouvement formation populiste, puisse arriver si haut dans les sondages du scrutin. Nous savons pertinemment que le président en place va encore rester et garder son mandat pendant 6 ans suivants. Mais ce qui était intéressant, c'était des débats qui se sont déroulés et il y avait des personnages nouveaux. Et pour moi, il y avait une révélation, Ksenia Sobchak, une femme très sympathique, très attirante. Peut-être c'est une figure d'avenir. Demain, elle n'a aucune chance, mais peut-être dans une cadence suivante, 6 ans, c'est quelqu'un qui a de l'avenir et j'ai beaucoup de sympathie pour elle.
Il faut la prendre au sérieux, Ksenia Sobchak, malgré tout ce qu'on écrit, ancienne figure de la télé-réalité, fille du maire de Saint-Pétersbourg, lui-même proche de Poutine. Il faut, selon vous, la prendre au sérieux comme une figure d'avenir en Russie.
Évidemment, il y a toujours des détails qui alourdissent. Cette femme a été à la télé-réalité, effectivement. Et c'est vrai qu'elle a animé des émissions auxquelles je ne regarde jamais. Mais sa posture d'aujourd'hui est intéressante. Elle a beaucoup d'affront, elle a du courage, elle a du style parce qu'elle change beaucoup ses chemisiers ses chemisiers sont très élégants. Et moi, j'en ai marre de voir des costumes des hommes ou les généraux et aussi ceux qui portent des manteaux de luxe qui coûtent 10 000 dollars. Donc, je préfère de voir autre chose, autre figure sur cette scène.
Le fait qu'elle soit une femme, vous disiez j'en ai marre de voir des costumes, vous faisiez un geste aussi de grosses montres d'hommes, le fait qu'elle soit une femme aussi montre que les choses sont en train de changer, comme vous avez suivi le mouvement MeToo dans le monde entier maintenant. C'est un bon signe pour vous que cette jeune femme apparaisse ? En Russie aussi, ça change ?
Oui, incontestablement. C'est un sujet sur les parités de sexe, mais c'est un nœud, tout un nœud de problématiques. Et c'est symbolique qu'il y a de plus en plus des femmes qui se mettent en avant et en politique et dans les arts et dans la vie actuelle.
Un dernier mot quand même, parce que les Français, ça les passionne, hein, l'histoire de Poutine, les élections russes aussi. Pourquoi, une question très très naïve, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, si critiqué notamment en France et dans d'autres pays, est au fond si populaire en Russie ? Est-ce que c'est juste parce qu'il fait peur ?
L'histoire russe, c'est une histoire lourde. Et tout cet héritage aussi de l'Union soviétique, c'est l'histoire de la déformation de la personnalité humaine, de la dignité humaine par la peur. Si vous lisez mon dernier roman, vous trouvez la trace de cette déformation. En ce qui concerne la complexité de la figure de Poutine, c'est que je vois quelqu'un, un homme qui veut trancher très trop simplement des problèmes trop complexes. Et donc, lui, sa méthode, c'est multiplier 2 fois 2, mais il essaie d'ignorer le reste de cette table de multiplication.
Vous citez parfois Ludmila Ulitskaya quand vous parlez de Vladimir Poutine, la phrase du poète Joseph Brodsky. Le voleur m'est plus sympathique que la sangsue. Qu'est-ce que signifie cette phrase?
Oui.
Comment on dit en russe d'ailleurs, le voleur m'est plus sympathique que la sangsue?
Варюга мне милей, чем кровопийца.
Ça sonne bien.
C'est absolument ça.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Il est plus voleur que sangsu.
Я попробую ее вам разъяснить.
Je vais essayer. Поэтически она очень короткая. C'est vrai que c'est un condensé, très laconique et поétique. Si on explicite, on peut plus facilement pardonner à un voleur. Son seul but, c'est détourner quelque chose. Et sangsu, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre le sang de l'autre, donc tuer. Et donc, c'est ça la différence. Et en fait aussi, le fait que je puisse être là et parler tout haut ce que je pense, le fait que dans 3 ans, je peux de nouveau revenir dans mon pays et je suis sûre qu'il n'y aura pas de menottes sur mes mains et qu'on ne va pas me conduire en prison. C'est la grande différence de la Russie d'aujourd'hui avec ce qui s'est passé en URSS. Donc, le pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir ferme, mais ce n'est pas le stalinisme que l'on a connu en Union soviétique.
Si on est très concret, Ludmila Ulitskaya, en fait, les écrivains russes ont-ils finalement à se plaindre du régime? Parce qu'au fond, vous l'avez dit, vous êtes là, on en parle librement, vous reviendrez dans votre pays, vous le dites vous-même, il n'y aura pas de menottes, etc. Et vous avez ajouté, je n'ai jamais changé un seul mot pour cause de censure. Donc est-ce que finalement, quand on est écrivain en Russie, on a à se plaindre du régime?
Tout d'abord, quand j'ai dit j'espère qu'on ne me mettra pas les menottes. Je n'ai pas la certitude. Il y a une tradition en Russie que les différents services tradition qui vient de l'Union soviétique, dans la sphère du théâtre, de la culture. C'est tout particulièrement important d'être serviable, de servir le pouvoir. Et en fait, vous connaissez combien des artistes ont péri parce que sous le coup de la répression, parce qu'ils n'ont pas voulu servir. Mais ceux qui restent dans cette sphère ont pris cette habitude de se considérer dépendants de l'État. Et par exemple, tout ce système d'association des écrivains soviétiques, des peintres soviétiques, c'était tout un système de récompenses, des mérites qui étaient donnés.
Oui, des datchas, on se souvient. Peredelkino, par exemple, le village des écrivains.
Tout à fait. Avoir le privilège d'avoir des tirages plus grands.
Le
poids aujourd'hui idéologique a été remplacé par le poids du marché.
Вот. Сегодня я знаю прекрасно, в какую сторону надо идти, чтобы много купили книжек и много заработали.
Parfaitement aujourd'hui, comment il faut, dans quel sens il faut aller pour gagner beaucoup d'argent.
И некоторые этим путем идут.
Et il y a ceux qui essayent de suivre ce chemin.
Oui, qui n'est pas le vôtre, hein, on précise.
Вы знаете, дело в том, что я работаю за интерес. Мне очень важно, чтобы мне было интересно.
Moi, mon grand critère, c'est que mon œuvre soit intéressante pour moi-même. C'est ça mon critère.
Je n'ai
pas écrit un seul livre sur commande dans ma vie.
Mais quand je vous posais la question de la censure, au fond, en Russie aujourd'hui, on peut écrire les livres qu'on veut ou non. Parce qu'en fait, quand on lit un peu, non seulement vos œuvres, mais les commentaires que vous avez faits sur vos œuvres, vous dites finalement j'ai dû changer peut-être un seul mot dans un roman qui était un mot qui était un peu vulgaire. En gros, c'était le mot, je peux le dire, c'était le en russe, je ne sais pas le dire, mais le mot putain que j'ai dû remplacer par garce. C'était un mot d'argot en fait. C'est votre éditrice qui vous a demandé de l'enlever, mais ça s'est limité à ça au fond.
Oui, j'ai dû changer un mot de toute ma carrière d'écrivain. J'ai trouvé que sémantiquement, le mot putain, elle veut dire ce qu'elle veut dire. On peut le remplacer par un autre mot, ça ne change rien au sens.
Что касается цензуры, понимаете, мне кажется, что сегодня в области художественной литературы цензуры в общем нет.
Je pense que dans le domaine de la littérature, de la fiction, il n'y a pas de censure. La censure, elle est très présente et très puissante dans les médias, surtout les médias audiovisuels. Mais le pouvoir actuel, elle laissait courir un peu son libre cours, la littérature, et c'est très bien, c'est confortable pour les écrivains.
Alors, Staline était un immense lecteur, il adorait la littérature. Est-ce qu'au fond, la littérature intéresse encore le pouvoir russe?
Мне кажется, что абсолютно.
Je pense que absolument pas.
Это наше большое счастье.
Et c'est un grand bonheur pour nous, pour moi.
C'est un peu inquiétant aussi pour l'avenir de la littérature. Si la littérature n'inquiète plus un pouvoir politique.
Vous savez, дело в том, что политическая власть, видимо, интересуется
не пouvoir s'intéresse pas à la littérature, mais à d'autres se faire d'art. Disons comme ça. Et malheureusement, la situation, l'attaque contre Cyril Serebrennikov, metteur en scène, ou bien d'autres, malheureusement, en disent long sur l'existence de la censure.
Oleg Sentsov, le cinéaste qui a pris 25 ans de prison.
Oleg Sentsov, c'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai signé toutes les lettres qu'il fallait en sa défense. Nous nous sommes mobilisés comme on pouvait, mais ça fait 3 ans qu'il est en prison, en Sibérie.
En Sibérie. Vous pensez que les choses peuvent changer de ce point de vue-là, justement? Est-ce que la mobilisation des écrivains russes pour Oleg Sentsov, pour, vous l'avez dit aussi, Kirill Serebrennikov, qui lui est assigné en résidence, Yuri Dmitriev, qui est un historien qui travaille sur les victimes de la terreur stalinienne et qui lui est en procès. Est-ce que vous pensez que les choses vont pouvoir changer? Voilà.
Non, vous знаете, вот мой опыт этого дела. Savez, я была включена в это дело Дмитрия.
J'étais même pas personnellement engagée pour aider dans le cas de Dmitriev. J'ai assisté à une audience au tribunal et là la société s'est mobilisée. Ensuite, le studio de jeunes studios de cinéastes, ils se sont vraiment mobilisés en faveur de Dmitriev. Il n'a pas été jugé. C'est la situation un peu semblable à laquelle se trouve Cyril Serebrennikov. J'ai l'espoir, j'ai bon espoir, parce que l'audience va se tenir très prochainement, au mois de mars, et qu'il sera relâché.
Il y a une très belle phrase, Ludmila Ulitskaya, à propos du chapiteau vert, votre grand roman de la dissidence. Vous écriviez « La question, tu peux faire cela ?» Je vais le reprendre d'ailleurs. « La question, peux-tu faire cela, il faudrait le traduire comme ça, est posé à chaque être humain à un moment de sa vie. Il décide du fond de son âme s'il est capable de couper la tête d'un petit rat de rien du tout et s'il veut le faire. Un jour, j'ai dit « je peux ». Puis plus tard, j'ai dit « non, je ne veux pas ». Cette chance est donnée à tous ceux qui tiennent des ciseaux, une mitraillette, une éprouvette contenant un virus mortel. Et à ceux, Ludmila Ulitskaya, qui tiennent un stylo. Est-ce qu'il faut aussi saisir cette chance un moment et dire « je ne veux pas » ?
Vous savez que l'histoire du rat, c'est ma propre histoire. Je suis venu pour postuler au laboratoire. Et le chef du laboratoire, le premier test qu'elle m'a fait subir, elle m'a donné les ciseaux, il m'a dit, et un tout petit rat, et il m'a dit, est-ce que tu peux lui couper la tête ? Et j'étais très motivée pour devenir biologiste et j'ai dit oui, je peux. Et en fermant les yeux, je lui ai coupé la tête. Mais je pense que j'ai coupé une corde sentimentale dans moi-même tellement c'était dur. Et j'ai pris sur moi, vraiment, c'est dans ma biographie, dans ma chair. Et les années sont passées et je pense que chaque homme, à un moment de sa vie, il doit répondre à cette question. Est-ce que tu peux le faire ? Il faut répondre, oui ou non.
Et quand on écrit, quand on a votre succès, Ludmila Ulitskaya, ça oblige encore plus à faire passer justement ce message, cette fameuse question que chaque homme doit se poser et chaque femme.
Pas forcément. Moi, je me sens tellement libre quand je prends mon stylo et quand je me mets à écrire que je ne me pose plus cette question, est-ce que je peux ? Peut-être il y a déjà mon inconscient qui a tranché sur cette question. Dans chacun de nous, il y a une zone et des limites qu'on ne peut pas franchir intérieurement, mais ces limites, ils peuvent aussi s'étendre.
Mais
c'est très important de se demander soi-même jusqu'où on peut aller soi-même.
On va continuer avec vous, Ludmila Ulitskaya, et parler de ce nouveau livre qui sort chez Gallimard, L'échelle de Jacob, où vous racontez ni plus ni moins le destin d'une famille sur quatre générations, de 1911 à aujourd'hui, où vous nous parlez d'amour, d'une correspondance amoureuse d'ailleurs, d'une femme libre aussi, Nora, votre héroïne, qui élève son enfant seule, qui choisit ses projets, ses amants seuls, qui essaie d'être libre. Mais d'abord, on écoute votre premier choix musical, Symphonie numéro 2 de Rachmaninov. C'est un air que Jacob va entendre au concert lorsqu'il rencontre Maroussia, donc ce personnage dont on va parler maintenant, pour la deuxième fois. Nous écoutons, c'est interprété par le Philharmonia Orchestra sous la direction de Kurt Sanderling. Symphonie numéro 2 de Rachmaninov, interprétée par le Philharmonia Orchestra sous la direction de Kurt Sanderling. C'est le choix musical, le premier choix musical de Ludmila Ulitskaya qui sort chez Gallimard son nouveau roman, L'échelle de Jacob, c'est traduit du russe, évidemment, par Sophie Benesch. Je le disais, d'ailleurs, Ludmila Ulitskaya est à mes côtés. Nous sommes en direct du Salon du Livre, le Salon Livre Paris. Ludmila Ulitskaya, je disais que c'est un titre qui est important, puisque Jacob, votre héros, l'entend en concert lorsqu'il rencontre Maroussia pour la deuxième fois. C'est un grand roman d'amour que cette échelle de Jacob. Une question d'abord, la musique dans votre travail d'écrivain joue un rôle très très important. Est-ce que par exemple vous écrivez en musique, vous écrivez après avoir écouté de la musique, vous séparez les deux choses?
Vous savez, la musique me mêche quand je travaille.
Je sépare les choses parce que la musique, quand j'écris, j'essaie de ne pas la voir. Mais cette année, j'ai fêté 75 ans. Et mon fils a accompli un de mes rêves. Il m'a offert le piano. J'ai toujours rêvé d'avoir le piano. Quand j'étais toute, dans ma jeune, tendre enfance, j'ai fait 2 ans ou 3 ans de piano. Et maintenant, je me fais une grande joie d'avoir le piano à la maison. Évidemment, je vais jouer des petites choses très simples, mais ça me procure de la joie.
Vous préférez la joie du piano ou la joie du stylo? D'ailleurs, ou la joie de la machine à écrire, vous écrivez sur quoi, Ludmila Ulitskaya?
Je ne peux pas préférer parce que je n'ai pas encore touché mon piano. Le piano que j'avais dans mon enfance, c'était le piano de Marus, qui était chez ma grand-mère. Et donc... C'est un tournant qui s'annonce dans ma vie.
Et vous écrivez, vous pianotez sur une machine à écrire, sur un ordinateur, vous écrivez à la main?
Maintenant, j'écris avec l'ordinateur et je pianote à l'ordinateur, mais pour traverser certains passages, j'ai besoin vraiment de coucher sur le papier. Et là, je travaille sur le papier.
Ah, pourquoi? Parce que le stylo donne plus de souplesse, finalement, pour aborder certaines choses plus difficiles peut-être à écrire.
Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que quand je déblocage, je prends un cahier et le stylo, voilà, et peut-être a plus de souplesse.
Alors, Ludmila Ulitskaya, vous êtes admirée dans le monde entier pour votre œuvre de romancière, de nouvelliste, de dramaturge. Citons Sonetchka, qui vous a valu en France le prix Médicis étranger en 96. Citons aussi Le Chapiteau Vert, nous en avons dit, un mot, votre grand roman sur la dissidence. Et vous publiez donc chez Gallimard une nouvelle fresque, L'échelle de Jacob. C'est l'histoire de Nora, qui travaille pour le théâtre, et c'est peut-être normal quand on porte le prénom d'une héroïne d'Ibsen. Nora découvre dans l'appartement où vient de mourir sa grand-mère Maroussia, admirable scène d'ailleurs, vous décrivez cette femme qui est allongée, qui est morte, mais qui est encore si belle, comme si finalement la mort ne pouvait pas lutter contre cette beauté. Elle est allongée dans l'appartement, et puis il y a une malle qui contient des lettres qu'elle a échangées avec Jacob, le grand-père de Nora. Maroussia était danseuse, elle était communiste fervente, mais ce grand amour qui naît entre Jacob et Maroussia va être en butte au pouvoir autoritaire que connaît la Russie. Jacob est envoyé au goulag pour sabotage, mais ce n'est qu'une partie de ce roman qui raconte 4 générations d'une famille russe, donc depuis 1911 jusqu'à aujourd'hui, et qui embrasse la nouvelle politique économique, ses évolutions, la mort de Staline en 1953, la perestroïka, la guerre en Afghanistan, la menace du conflit géorgien. Et puis la vie actuelle de Nora, femme indépendante, qui élève seule son fils et qui choisit d'ailleurs, je le disais, ses projets comme ses amants, entièrement seule. Bref, une femme qui tente d'être libre dans un monde compliqué. On va parler de ces lettres qui ont déclenché l'écriture de ce livre, mais d'abord, un petit mot sur les femmes qui sont au centre de vos livres, des femmes émancipées. Vous avez d'ailleurs reçu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2011. Est-ce que vous diriez, pour paraphraser Lermontov, que les héros de notre temps, ce sont des héroïnes?
Je suis profondément d'accord avec vous, on peut le dire. Et surtout, c'est vrai dans le contexte russe. Parce que le sort d'une femme russe, me semble-t-il, est beaucoup plus lourd à porter que pour des femmes ici en Europe. Depuis, vous savez que le siècle, le 20e siècle a été très lourd en Russie. Le premier guerre 1904 entre Russie et Japon. Et ensuite, les guerres ne sont jamais arrêtées. Une qui s'arrêtait et une nouvelle est commencée. Maintenant, la dernière en date, c'est la Syrie. Et il y a eu des déculpabilisations. Il y avait la guerre contre les médecins empoisonneurs. Ensuite, la guerre contre l'intelligentsia. Et en fait, toutes ces guerres et toutes ces purges ont emporté surtout beaucoup surtout, et c'est les hommes qui ont souffert. Et c'était surtout les hommes qui étaient envoyés au front, c'est surtout les hommes qui sont envoyés en prison. Et il y a aussi un phénomène très connu russe, c'est l'alcool, qui aussi est un grand gâchis en termes du genre masculin. Et du coup, très souvent, la femme russe se trouve seule. Déjà, les femmes russes sont beaucoup plus nombreuses et elles ont beaucoup plus de peine à porter. Non seulement ils doivent donner la vie à l'enfant, mais aussi élever seuls ses enfants et de ne pas compter sur les hommes. C'est une situation assez difficile, mais du coup, cette situation a forgé un caractère très spécifique des femmes en Russie et qui sont vraiment des êtres, on peut dire, supérieurs, et supérieurs au sens moral surtout.
Très bien, c'est dit et c'est noté, Ludmila Ulitskaya. Je pensais à votre livre d'ailleurs, Mensonges de femmes. Alors, ça m'a beaucoup amusé, en même temps ça m'a rendu un peu triste, je m'explique. Vous preniez soin, en fait, dès le début de ce livre, de distinguer le mensonge féminin, tel qu'il était incarné dans ce roman, du mensonge masculin. En fait, vous expliquiez dans ce livre que l'homme, en fait, il ment toujours dans un but précis, souvent par cupidité ou pour cacher sa lâcheté. En tout cas, c'est un mensonge qui est dirigé vraiment vers un but pratique. Alors que la femme, et les femmes qui étaient évoquées par votre romancière, elles mentent, elles, pour rêver leur vie. Et en fait, elles se mentent à elles-mêmes. Et vous aviez dit de ce livre sur le mensonge est de tous ceux que j'ai écrits, celui qui contient le plus de vérité. C'est triste, en fait, que ce mensonge féminin soit au fond un mensonge qu'on se fait à soi-même.
Вы знаете, на самом деле, вот прошло довольно много лет после того, как я написала эту книгу.
Depuis que j'ai écrit ce roman, des années sont déjà passées. Et en fait, je me rends compte que plus on fait une pensée comme ça un peu générique, plus on dit des généralités. Quand on regarde après dans les détails, plus c'est faux. En fait, c'est les tropismes qui sont vraiment très dangereux. Parce qu'il y a beaucoup des hommes au monde qui essayent de se pavaner et en fait, qui essayent de se mettre en valeur. Il y a aussi des femmes qui sont comme les Lady Macbeth, qui sont très très malicieuses et qui se valent en fait. Donc je ne peux pas le dire avec affirmation ce que vous venez de citer, que les mensonges des hommes sont toujours pragmatiques et les femmes sont très très rêveuses.
Ulysse, d'ailleurs, étant, vous en parliez, Ulysse, le menteur suprême, incarnant justement ce mensonge des hommes pragmatiques.
Oui, ça c'est vrai. Quand j'écrivais ce livre, ça m'a paru juste. En russe, ça s'appelle la ligne transversale. Et en français, c'était traduit comme les mensonges de femmes. Ce livre, Mensonges de femmes, c'était le livre le plus léger. Je l'ai écrit sur un seul souffle et j'ai eu beaucoup de succès. Et c'est le succès commercial aussi, je ne le cacherai pas. Et une de mes amies m'a dit, mais tu devrais maintenant écrire tout de suite les mensonges des hommes. Et j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, c'est trop facile.
Voilà. Alors, au cœur de ce nouveau livre, L'échelle de Jacob, je le disais, dans le roman, il y a une découverte, la découverte d'une correspondance entre un homme et une femme qui se sont aimés des décennies durant. Il se trouve qu'au cœur de ce livre, dans la réalité, donc pas dans l'univers du roman, mais dans la réalité, il y a eu cette découverte que vous avez faite en 2011, la découverte d'une correspondance entre votre grand-père et votre grand-mère. C'est d'ailleurs votre grand-mère qui est sur la photo de couverture, qui a servi de modèle à Maroussia. Il s'était fait...
C'est une histoire bouleversante. J'ai quelques photos des archives familiales. Et ce roman, il a également été édité en Allemagne. Et en fait, ils ont même, pour faire la promotion du livre, ils ont fait un petit résumé du roman et ils ont demandé quelques photos de famille pour cette petite édition. Et en fait, Gallimard, sans doute, a eu connaissance de cette petite fascicule de présentation et ils m'ont demandé cette photo de jeunesse de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est très, très, très touchante. Et c'est vrai que quand j'ai eu une relation difficile avec ma grand-mère, j'ai une relation un petit peu compliquée avec ma grand-mère, mais quand j'ai vu la photo de ma grand-mère comme ça sur la couverture, et je pense que là, si elle me voit de là-haut, elle serait très contente et nous sommes complètement réconciliés.
Elle était aussi belle que Maroussia, votre grand-mère ?
Mais c'est elle, c'est tout elle.
Est-ce que c'est l'émotion que vous avez ressentie en tombant sur ces lettres qui vous a dicté finalement l'écriture de ce livre, ou est-ce qu'il y avait aussi des causes plus rationnelles, puisque ça parle aussi de l'histoire soviétique, enfin, l'histoire russe d'ailleurs?
Bien sûr, en Russie, les gens connaissent très peu l'histoire et la généalogie familiale. Et souvent, ces histoires familiales sont directement rattachées aux des événements historiques. Quand on lit l'histoire en Russie, Ivan le Terrible, c'est un tyran, quelqu'un de tyrannique et horrible. Dans une autre version, il est au contraire rassembleur des terres russes et un grand tsar. La même chose, on peut lire sur Pierre le Grand. Et donc, il y a aussi des histoires, à l'époque soviétique, si ta grand-mère était paysanne, c'était une tare sociale, et ton grand-père a été ingénieur, on ne peut rien changer dans les stéréotypes. Mais puisque nous évoluons tous, on est toujours en rapport avec le contexte socio-historique. On peut bien entendu dire « je ne m'intéresse pas à la politique, mais c'est la politique qui s'intéresse à toi et il te met des contextes. » Il y a en fait la construction sociale de la réalité qui s'opère néanmoins, même si on ne s'intéresse pas. Et quand je fais ce recoupage de l'histoire familiale, par exemple, mon grand-père Jacob, il ne s'intéressait pas à la politique. Son premier goût, c'était la musique. Il voulait se vouer aux sciences, mais c'est la politique qui s'est intéressée à lui. Il l'a envoyé au goulag. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, Je suis ravie parce que maintenant, ça a donné cette impulsion à très, très nombreuses personnes de rechercher quelles sont les origines de la famille, reconstruire la mémoire familiale, monter au grenier, chercher des vieilles malles, des photos de famille, retracer d'après les lettres. Et maintenant, les gens ne vont plus jamais jeter ça à la poubelle ou, parce qu'ils comprennent à quel point ça les a construits. Et puisque moi-même, je suis de formation généticienne et je m'intéresse très bien comment on hérite le caractère, tout ce qui est l'hérédité, en commençant par la forme du nez et par les goûts internes, c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est notre hérédité. Donc, je suis passionnée par cette transmission de caractère et l'influence du milieu.
Vous trouvez que la génétique, finalement, est une science très proche de la littérature? La littérature, d'ailleurs, est-elle une science, Ludmila Ulitskaya?
Vous savez, le fait est que je suis vraiment très heureux.
Vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais passionnée par la génétique. Pendant très très longtemps, mais j'ai travaillé comme généticienne. Ensuite, pendant 10 ans, je me suis consacrée à l'éducation de mes enfants. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière d'écrivaine et j'ai réalisé que finalement, je n'ai pas vraiment changé de métier parce que c'est toujours l'être humain qui m'intéresse. Avant, c'était l'ADN et maintenant, c'est toujours l'être humain qui est au centre de mes préoccupations. Donc, quelque part, j'ai fait la tour et maintenant, la boucle est bouclée.
C'est vrai que dans ce livre, Ludmila Ulitskaya, c'est un siècle de rencontres, de liaisons amoureuses, de séparations, de relations familiales paisibles, tumultueuses. La filiation est toujours vraiment au cœur de ce livre. Il y a des enfants. C'est une magnifique ode aussi à la maternité. Aussi, d'ailleurs, puisqu'on est là, allez, la maternité. Il ne s'écoula pas moins d'un an avant que Nora comprît quel profond changement s'était produit en elle depuis la naissance de son enfant. Elle découvrit que sa perception du monde s'était en quelque sorte dédoublée. Elle avait acquis un effet stéréoscopique. C'était comme si elle revivait avec le bébé l'apprentissage du doux, du dur, du brûlant, du coupant. Et elle regardait une branche d'arbre, un jouet, n'importe quel objet avec une curiosité originelle. C'est drôle parce qu'on retrouve cette image de l'arbre. C'est un livre qui s'ouvre d'ailleurs par l'arbre généalogique. Un roman, c'est toujours pour vous forcément un arbre avec plusieurs branches, Ludmila Ulitskaya.
Oui, c'est toujours. Si je peux faire une petite parenthèse, je voudrais saluer ici Sophie Benesch, parce que je viens de l'apercevoir, c'est ma traductrice, voilà. Et je voudrais aussi que tout le monde
Bravo.
Puisse la saluer.
Voilà, donc revenons. Oui, à cette question, je disais, un roman, c'est forcément un organisme, puisque vous parliez aussi de votre passé de généticienne, un organisme végétal à plusieurs branches aussi, dont le but est d'explorer la nature humaine.
Je souscris à ce que vous dites, parce que c'est une très très belle métaphore, on peut parfaitement comparer l'œuvre écrivain à ça.
Il y a un passage que j'aime beaucoup, toujours dans les premières pages de ce livre, justement, où Nora a dû quitter son enfant. Elle est en train de l'allaiter et en fait, on l'appelle puisque sa grand-mère est morte, donc elle doit y aller. Et puis au moment où elle prépare le cadavre, avec cette femme très très belle, magnifique encore, il y a les gouttes de lait en fait qui montent, qui apparaissent d'ailleurs sur son chemisier, au moment où elle nettoie les derniers sucs et scories du cadavre, c'est ce que vous écrivez. Et dans ce livre, il y a un regard extrêmement beau sur l'enfance. Par exemple, il y a les déclarations les plus poétiques, elles viennent des enfants. Yorick dit « Nora, pourquoi l'eau froide a une voix d'homme et pourquoi l'eau chaude a une voix de femme ?» Et il y a d'autres phrases comme ça qui surgissent dans ce livre. Et quand elle parle de son enfant Nora, elle écrit « Nora sentait qu'elle était en retard sur son fils pour ce qui était d'absorber la féerie du monde et de s'y retrouver. Se pouvait-il qu'à l'intérieur de chacun d'entre eux, comme à l'intérieur de Yurik, se cachât un sage qui sait des choses que les adultes ont oubliées ?» Et vous rappeliez votre passé de généticienne, Ludmila Ulitskaya, vous avez finalement presque eu la chance, puisqu'on vous a obligé à quitter ce laboratoire parce que votre machine à écrire avait servi à imprimer, à recopier un samizdat, un livre interdit. Vous avez dû quitter votre laboratoire, vous avez pu écrire, en faire votre métier. Vous avez commencé par des contes pour enfants. Quel bonheur y trouviez-vous ? Parce qu'on sent que l'enfance vraiment est au cœur de votre œuvre.
Je suis ravie d'entendre un tel résumé parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup apprécié ce côté physiologique dans le roman et d'autres m'ont reproché ce côté physiologique.
Mais sur cette part d'enfance, je disais, vous avez, quand vous êtes obligé de quitter votre laboratoire de généticienne, vous allez au fond, vous lancez dans la littérature, parce que vous écriviez depuis longtemps, mais ce n'était pas votre métier, et vous commencez par des contes pour enfants. Et je vous demandais quel bonheur vous y trouviez, parce qu'on sent que l'enfance vraiment est très très importante et vraiment au cœur de votre œuvre.
Je ne pense pas que
c'est ainsi. C'est vrai que j'écrivais depuis toujours, depuis mon enfance. J'écrivais un journal intime, des petits cahiers. J'aimais bien coucher sur le papier mes pensées profondes. Mais sauf que je ne pensais pas qu'on peut faire un travail de l'écriture. Et ensuite, c'est vrai que c'est la vie qui m'a obligée un petit peu de me réorienter. Et aujourd'hui, quand j'ai terminé le roman, je peux, a posteriori, j'aime bien relire aussi tous les cahiers que j'ai tenus pendant que j'écrivais le roman. Et je pense que ce serait encore quelque chose d'intéressant à publier par la suite, parce que c'est tout un terrain. Et moi, je conseille à tout le monde, c'est un très bon exercice thérapeutique. Écrivez le plus possible. Chaque fois où nous formulons une phrase, une pensée, nous nous apaisons, nous repensons notre rapport au monde. Et je conseille à tout le monde l'écriture, c'est un exercice thérapeutique.
Très bien, c'est le conseil de Ludmila Ulitskaya. Il nous reste un petit quart d'heure avec vous, un petit peu moins d'un quart d'heure. On écoute votre deuxième choix musical, alors qui va surprendre peut-être. She's Leaving Home, des Beatles. Voilà, et c'est lié à l'enfance d'ailleurs, ce choix-là. On écoute.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years.
Father snores as his wife gets into her dressing gown.
She's Leaving Home, des Beatles. C'est le deuxième choix musical de Ludmila Ulitskaya, qui publie L'échelle de Jacob, c'est chez Gallimard. traduit par Sophie Benesh du russe. Elle est là, Ludmila Ulitskaya, vous l'avez saluée, votre traductrice. On est en direct du salon Livre Paris. Il nous reste une petite dizaine de minutes avec vous, Ludmila Ulitskaya. She's Leaving Home des Beatles, c'est une chanson que Yurik chante au décès de sa grand-mère, puis à la mort de son ami Mickey des années plus tard. C'est une chanson d'ailleurs qui incarne la divergence de Yurik et de Nora dans leur vision des États-Unis. Je voudrais citer quelques phrases de vous, Ludmila Ulitskaya. Les années avaient passé, mais ils s'en tenaient toujours aux Beatles. Ils étaient ses seuls maîtres, et pendant des années, il ne fut sensible à rien d'autre qu'à cette musique internationale de la jeunesse, envers laquelle Nora avait développé une réaction allergique. Elle essayait de lui donner le goût d'une autre musique. Elle l'emmenait au conservatoire, à l'opéra. Il y a beaucoup de musique dans ce livre, Ludmila Ulitskaya. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de littérature, de références à la littérature. La relation de Jacob et de Maroussia, donc du grand-père et de la grand-mère, qui se sont écrits, et Nora tombe sur leurs lettres, leur histoire d'amour, cette correspondance magnifique. La relation, elle semble reposer aussi sur leur amour commun des livres, du théâtre, de la musique. Vous semblez, dans ce livre, donner une explication à comment on devient écrivain par une citation de l'un de vos personnages. Comment un homme qui n'a pas eu le temps de faire d'études pourrait-il écrire correctement ? Quand un débutant comme le boulanger Gorky s'est mis à écrire, il avait déjà eu le temps de digérer toute une bibliothèque. Il était imbibé de livres comme une éponge. Ce qui forme un écrivain, c'est soit la vie plus les livres, soit uniquement les livres, mais jamais uniquement la vie sans les livres. Est-ce que vous partagez ce jugement, Ludmila Ulitskaya, qui est le jugement d'un de vos personnages ?
Je serai obligée de nouveau de revenir vers un problème génétique, vers ce qui est l'hérédité, ce qu'on hérite de nos parents. Une partie de nous peut résister à ces lois de l'hérédité. Parce que en se transmettant, le gène peut être soit révélé, soit non révélé. Quelqu'un qui a une musicalité innée, il peut ne pas devenir musicien s'il n'a pas pu avoir en fait des conditions nécessaires pour le milieu nécessaire pour devenir musicien. Et ça, c'est exactement vrai et ça concerne tout. Aujourd'hui, beaucoup de généticiens pense que la moitié de notre de nous c'est la transmission et l'autre moitié c'est le milieu. Le milieu, la socialisation, déjà les toutes premières années de la vie sont décisives. Et ensuite, tout le parcours est formateur, nos premiers professeurs. La nature qui nous entoure, les premiers événements de notre vie. Est-ce que donc c'est des atterrissages, les atterrissages en douceur et au contraire des atterrissages durs face à des événements, tout ça, ça nous forme. Et le degré de notre dépendance de littérature peut être très grand, comme chez moi, comme dans mon cas, parce que je pense que moi, ce qui m'a formé, ce qui m'a socialisé, c'est deux grandes bibliothèques chez deux grands-mères. Donc, mes parents, ils travaillaient beaucoup, je ne les voyais pas. Donc, à ma disposition, j'avais une bibliothèque chez une grand-mère et une autre bibliothèque chez l'autre grand-mère. Et j'avais libre choix dans cette bibliothèque, je pouvais piocher n'importe quel livre. Et c'est ça qui m'a formée. Et quand mes garçons sont devenus suffisamment grands pour lire tout seul, je me suis investie pour leur lire à haute voix des textes de littérature, parce que je savais que certaines références, ils vont pas le lire par eux-mêmes. Donc, je les ai lus à haute voix la comédie divine de Dante, Docteur Jivago. Le dimanche, la résurrection de Tolstoï, Donc, tous les livres que je considérais comme des textes fondateurs. Et donc, je voulais absolument leur transmettre ça. Et c'est pour ça que ces livres, je les ai lus à haute voix. Et donc, j'ai pu... je pense qu'ils sont des êtres cultivés. Maintenant, ils choisissent eux-mêmes leur lecture. Et aujourd'hui, on voit que la culture est beaucoup subit une grande transformation, une sorte de reformatage. Aujourd'hui, on reçoit les principaux messages autrement, par d'autres médias.
Et ça vous inquiète ?
Oui.
Alors, j'ai été d'accord, Ludmila Lutskaya, avec pratiquement tout ce que vous avez dit pendant cette heure d'émission. Il nous reste 2 minutes. Dans ce livre, vous parlez admirablement de Tolstoï, de Tchekhov, d'Alexandre Bloch. Il y a quelqu'un, en revanche, sur lequel vous dites des choses extrêmement difficiles à entendre. C'est Dostoïevski. Il a apporté quelque chose d'effrayant à la littérature, dites-vous. Il a légitimé le mal. Et là, je me suis demandé, Ludmila Ulitskaya, vous auriez donc une conception morale de la littérature ?
Vous savez, дело в том, что не подлежит никакому сомнению, что Достоевский гениальный.
Il fait aucun doute, le génie de Dostoïevski ne fait aucun doute. Ça, c'est absolument vrai, mais tout en étant un écrivain génial, il nous a balancé que le mal est dans, se cache dans chacun de nous et que ceci est légitime. Raskolnikov, un être sympathique, il peut tuer deux vieilles et intérieurement, après, surpasser ça, réfléchir beaucoup et impunément le faire.
Oui, mais il regrette. Et puis Sonia, finalement, il écoute Sonia. Il regrette Raskolnikov. Il se rachète.
Non, vous savez, дело в том, что если мы на этом остановимся, то нам не надо было бы читать Достоевского.
Je pense que si on s'arrête là, je pense que on peut s'arrêter à Dante et lire que tout sur le châtiment. Mais mon âme ne peut pas l'accepter. Donc, pour moi, c'est un assassinat, en fait, un assassinat très gratuit, juste pour se prouver à soi-même qu'on peut franchir la limite dont on a parlé, qu'est-ce que je peux faire, mais cette facilité avec laquelle on peut franchir la limite morale, ça, dès ma jeunesse, ça m'a posé un problème, ça me pose toujours un problème.
On prolongera avec vous, Ludmila Ulitskaya, cette discussion sur Dostoïevski, parce que je pourrais vous répondre. Ça me passionne en tout cas. Je vous remercie infiniment pour cette heure que nous avons passée ensemble dans le temps des écrivains. On était en direct du salon Livre Paris, voilà le salon du livre de Paris qui bat son plein jusqu'à lundi. Merci beaucoup, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, L'échelle de Jacob, c'est traduit du russe par Sophie Benesch, c'est chez Gallimard. Et puis il y a aussi Confiture russe, une pièce aussi, on aurait pu parler de théâtre, vous reviendrez Ludmila Ulitskaya. Je voudrais aussi remercier votre traductrice Natalia Boyko Jakoura qui vous a interprété pendant cette heure. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Naïd Lancio, à la réalisation Anne-Laure Chanel, chargée de production Rémi Gouriou, à la technique Élise Leu. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière indéfinie sur franceculture.fr cette émission spéciale avec Ludmila Ulitskaya. Merci infiniment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.
Le temps des écrivains avec l'appli Audible. Écoutez des livres audio sur votre smartphone. Des coachings ou podcasts, rendez-vous sur audible.fr.